dans un texte, dans les deux derniers versets de Jacques, qui concerne la discipline comme telle, dans un sens d'aller chercher quelqu'un qui est sorti loin de la vérité, puis de le ramener, ben je me suis dit que ça vaudrait peut-être la peine, tant qu'à passer par-dessus ce thème-là, que d'en parler peut-être le même dimanche, là, puisqu'il y a plein de questions qui peuvent ressortir suite à la discipline, des questions relatives à la discipline. Un peu comme je disais ce matin, des fois on pense discipline, puis on pense souvent à ce qui est le plus loin dans le processus, qui est l'excommunion. Et ça, c'est pas le but en soi n'est pas ça, mais la discipline est un processus. J'aimerais qu'on prenne un temps, on vient de prier, mais j'aimerais qu'on prenne un temps qu'on prie, que Dieu dispose nos cœurs, nos pensées. On va ouvrir la parole sur divers textes, particulièrement du Nouveau Testament, de regarder qu'est-ce que Dieu nous dit, et puis que Dieu vienne nous parler, puis après ça, ben on va en discuter ensemble. Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es un Dieu fantastique, Seigneur, et tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous donnes jour après jour est parfait et suffisant. On est content, Seigneur, que de pouvoir marcher avec toi, que de pouvoir te connaître d'une façon personnelle. On réalise pas à tous les jours, à chaque instant, Seigneur, ce privilège, cette bénédiction que l'on a, que de pouvoir être avec toi. Mais on veut certainement te glorifier, te louer pour ça, te rendre grâce. Et on veut prendre le temps aussi de s'arrêter ce soir pour ouvrir ta parole, pour écouter qu'est-ce que toi tu as à nous dire. On veut être enseigné, on veut te ressembler de jour en jour, et puis vivre, Seigneur, ces vertus que tu t'attends de nous en tant qu'enfant de Dieu. Et dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Les deux plus grands commandements parlent de l'amour, d'aimer Dieu, puis d'aimer son prochain. En quoi la discipline et l'amour ont rapport ensemble? Est-ce que c'est deux choses différentes? Ou est-ce que c'est deux choses qui vont ensemble? Je m'attends à la réponse que vous pouvez me donner, mais dites-moi pourquoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que c'est une responsabilité? Ouais. OK. Simon? Ouais. Ouais. OK. Alors, par amour, Dieu veut nous éviter bien des maux, de participer au péché, puis il va nous corriger aussi, nous châtier. Absolument. La discipline, l'amour n'est pas disséqué de la discipline. En fait, je commence avec ces deux plus grands commandements parce que ça devrait être notre motivation dans la discipline, devrait être l'amour. Ce qui nous pousse à agir, ce qui nous pousse à aller vers notre frère ou notre sœur, c'est parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime la vérité, parce qu'on aime notre frère ou notre sœur. Et on veut participer pour intervenir. C'est quoi la discipline? Je vais vous poser quelques questions en rafale, puis après ça, on va regarder les Écritures. C'est quoi la discipline? Quand vous entendez ça, c'est quoi qui vous vient en tête? Danny, après ça, Jacinthe. OK. Ouais. OK. Alors, d'aller chercher quelqu'un qui, un frère ou une sœur qui, en empruntant tes mots, qui est dans une période d'inutilité à cause du péché, puis qu'on va chercher à restaurer dans le but de rendre utile. Et on pourrait compléter en disant particulièrement l'utilité de ce frère, de cette sœur, de rendre. De glorifier Dieu à travers sa vie. Si je pratique le péché, je suis plus utile à glorifier Dieu. Je suis dans une période où je suis terne et je reflète plus ce que Dieu veut glorifier à travers moi et en moi. Oui, Jacinthe. Oui. C'est redressé. Oui. OK. De ramener. Madame Richard? Oui. Oui. Alors, l'Esprit de Dieu aussi le fait. Oui, absolument. Gisèle, après ça, j'ai une autre question pour vous. Oui, Gisèle. Ouais. OK. Alors, j'aime ce que tu ajoutes. C'est pas simplement un coup de règle sur les doigts, mais il faut expliquer la raison aussi de la mauvaise action, là. C'est quoi qui est une mauvaise action? C'est quoi qui est un péché? OK, on va voir ça par après. On va voir ça bientôt. C'est quoi les motifs disciplinaires? Pourquoi est-ce qu'on discipline quelqu'un? Pourquoi est-ce que c'est ça, on en restait là parce que je ne vais pas trop donner de détails. Je vais vous donner réponse, vous donner ce que je pense tout de suite. Vas-y, Jean-Pierre. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. OK. Alors, comme on disait tantôt, ce qui nous emmène vers les gens, c'est parce qu'on les aime. Absolument. Et puis, ma question va aussi dans le sens, j'ai peut-être pas la bonne formulation, mais qu'est-ce qui justifie qu'on va vers quelqu'un pour le discipliner? Qu'est-ce qu'il faut qu'une personne fasse pour qu'on intervienne. Il y avait Naomi. Oui. Pour protéger. Ouais. Ouais. OK. OK. Un élément de protection aussi. Pourquoi est-ce qu'on irait vers une personne pour intervenir dans sa vie? C'est quoi les motifs qui fait que on devrait s'approcher d'une personne pour enclencher un processus de redressement ou de ramener? Vas-y, Michel. OK. Ouais. OK. J'avais vu. Oui, vas-y, complète. Ça sent rien. Mais c'est bon, c'est bon. Tu fais la suite logique. Il y avait. Je sais pas, j'ai manqué une main par là-bas. Il y avait Danny, après ça, Jacinthe, puis Jean-Pierre. Après ça, on va ouvrir les écritures. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. OK. Et ça montre un frère aussi autant important. Oui, Justin. Ouais. Ouais. Dieu nous demande d'y participer. Si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, mais ramenez-le. Et pourquoi je vais chercher, je vais aller vers quelqu'un pour le ramener? Ben, parce qu'il s'est égaré loin de la vérité. Et parce qu'il a commencé à croire un mensonge ou quelque chose, ben, je vais chercher à ramener. Oui, Jean-Pierre, je t'invite à tourner avec moi en attendant dans Galates, s'il vous plaît. Vas-y, Jean-Pierre, tu peux commenter pendant ce temps-là. Ouais. Ouais. OK. Parce que j'appartiens à Dieu, il y a une discipline différente que quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Je vous pose une dernière question, j'en ai quelques-unes autres, quelques-unes après à rajouter. C'est quoi le but de la discipline? Pourquoi est-ce qu'on intervient auprès d'une personne une première fois, une deuxième fois, une troisième fois? Pourquoi est-ce que même en assemblée, à un moment donné, on peut arriver où est-ce qu'on fait une proposition de sortir quelqu'un de la communion? C'est quoi le but de la discipline? Il y avait Christine, après ça, Simon. Ouais. Ouais. OK. Le ramener pour son bien. Oui, Simon? OK. Ouais. Ouais. OK. Oui, Catherine? Ouais. Ouais. Ouais, mais l'idée est là, absolument. L'idée du témoignage pour la communauté, mais maintenant dans notre ère, c'est l'Église, comme tu disais, le témoignage pour l'Église, absolument. Il y a cette... Ouais, c'est ça, absolument. On va renchérir ça, tout ce qu'on vient de dire, avec plusieurs textes qui nous parlent de la discipline. Effectivement, c'était aussi donné au peuple d'Israël. Dans Galates 6.1, on trouve un premier texte qui nous montre comment intervenir. Et j'aimerais, d'un premier abord, regarder ce que les Écritures nous montrent dans ce que l'on a de besoin comme qualité particulière, si je peux dire, pour intervenir. Le texte de Jacques nous disait ce matin, si un frère, les Écritures nous demandent en tant que frère et sœur que si je suis près de quelqu'un qui s'est égaré, mais que j'ai la responsabilité d'intervenir. Maintenant, c'est quoi que les Écritures me disent que d'avoir comme qualité pour intervenir? C'est quoi que Dieu me dit de faire? Avec quelle attitude je vais y aller? Mais regardons premièrement les trois premiers versets. On va se promener un peu ici et là, je peux dire dans les Écritures, mais commençons avec Galates. Quelqu'un qui veut lire les trois premiers versets? On va dire les cinq. Les cinq premiers versets, mais on va s'arrêter sur les trois. Quelqu'un qui veut lire Galates 6? 1 à 5, s'il te plaît, Christina. OK. Alors, plusieurs choses qui sont là. Commençons avec le premier verset. Quelle est une des premières qualités, ou on peut commencer avec le début, quelle est la raison pour laquelle on devrait intervenir? Surpris en quelque faute. Alors, Paul, il va dire, si un homme vient à être surpris en faute, quelle est la première qualité, si je peux dire, que Dieu s'attend des gens qui vont intervenir? Être spirituel. Expliquez-moi ça, là. Ça veut dire quoi? Excuse-moi, j'ai oublié ton nom en arrière. C'est quoi? Barthélémy. Tu t'avais levé la main? OK, OK, ça va. Alors, bonjour Barthélémy, je vous présente Barthélémy. Bienvenue avec nous. OK, on a passé par-dessus le verset 1, on revient. Ça veut dire quoi d'être spirituel? Dieu demande d'être une personne spirituelle pour intervenir quelqu'un qui est pris en faute. Danny. Animé par l'Esprit de Dieu. OK, très bien. Ça tombe bien, ça tombe bien. C'est quoi que Paul vient juste de nous dire? Dans Galates 5, il nous parle des fruits de l'Esprit. Qu'est-ce qui émerge en nous? Qu'est-ce qui sort de notre propre vie? Est-ce que c'est les fruits de la chair ou est-ce que c'est les fruits de l'Esprit? Alors, les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors ça, c'est ce qui devrait pousser en nous. Si on est spirituel. Maintenant, est-ce que ça n'en disqualifie? Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas intervenir pour quelqu'un qui est pris en quelque faute? Est-ce que ça s'adresse de dire, dans l'Église, il y a deux catégories. Il y a les gens qui sont spirituels, puis il y a des gens qui sont charnels. Alors, ceux qui sont spirituels, voilà votre job. Est-ce que c'est ça que Dieu est en train de nous dire? Non? Alors, il n'y en a pas qui se disqualifient. Ça veut dire quoi comme prérequis dans ce cas-là? Ça veut dire que je devrais chercher à tendre à être spirituel. Il n'y a pas possibilité de deux options de dire, moi, je suis pas quelqu'un de spirituel, fait que ça t'appartient. Ça appartient à tout le monde. Gardez un doigt dans Galates, s'il vous plaît. Et puis, tournez avec moi dans Matthieu. Je vais vous faire tourner quand même. Vous connaissez le texte là, presque par cœur, là, mais je vais vous faire lire quand même. Matthieu 7. Les Écritures ne sont pas en contradiction avec elles-mêmes. Parfois, on pourrait avoir tendance à penser que Dieu nous dit qu'on ne doit pas juger. Puis là, on dirait qu'en d'autres occasions, il nous dit qu'on devrait juger. Mais est-ce qu'on doit ou on ne doit pas juger? Si quelqu'un est pris en quelque faute puis j'interviens, est-ce qu'il peut me dire « Hey, la Bible dit que tu ne dois pas juger » ou est-ce que je suis en mesure de pouvoir juger? On vient de voir dans Galates 6.1 que Dieu me dit, vous qui êtes spirituel, intervenez. Vous qui avez le fruit de l'Esprit, qui vous laissez conduire par l'Esprit, intervenez. Mais les personnes que je pourrais dire non qualifiées, qui sont des enfants de Dieu, mais qui peut-être n'ont pas un témoignage eux-mêmes d'une vie dirigée par l'Esprit, devraient mettre en pratique ce que Jésus disait en Matthieu 7. « Ne jugez point, fait que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Jésus est en train de dire, « Tu ne devrais pas juger. » Mais il va quand même poursuivre en disant, « Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'était quoi le problème ici? Comment? La personne était elle-même en faute. J'ai entendu un autre commentaire, Christina? Oui, OK. Alors, elle se plaçait au-dessus de sa propre mesure. Alors, elle était supérieure, c'est ce que tu disais. Alors, elle avait une mesure pour évaluer ses prochains, mais elle n'utilisait pas la même mesure pour s'évaluer elle-même. Alors, Jésus, il dit au verset 5, « Hypocrite! » Et Jésus ne dit pas que cette personne-là ou que les gens ne devraient pas intervenir. Mais il dit, premièrement, « Ôte la poutre que tu as dans ton œil. » Puis là, tu vas apprendre comment aider ton prochain pour enlever sa paille dans son œil. Revenez avec moi dans Galates. Dans la discipline, il y a l'idée de, de nous-mêmes avoir une vie sensible à Dieu dans notre relation avec lui. Est-ce que ça veut dire que les seules personnes qui peuvent intervenir, c'est ceux qui pêchent jamais? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais toi aussi, tu fais des péchés. T'as pas d'affaire à venir me dire ce que je fais de pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous répondez? OK. OK. Il n'y a pas d'homme qui pêche pas. Si je pêche, qu'est-ce que j'entretiens quand que je pêche? Allez, vas-y, Joanne. Oui. Alors, oui. OK, j'attriste le Saint-Esprit parce que j'entretiens le péché. Il y a deux choses qu'on peut entretenir. Parce qu'on va être confronté jusqu'à notre mort avec le péché. Heureusement, Dieu nous donne de victoire en victoire. Mais il y a deux choses qu'on peut entretenir. Soit qu'on va entretenir le péché, ou soit qu'on va entretenir notre relation avec Dieu. Puis quand je vais pécher, je vais le confesser à Dieu. C'est ça la différence. Tantôt, on demandait c'est quoi le but de la discipline. Bien, le but, c'est le témoignage, mais c'est de ramener la personne. Le but, c'est la repentance. Dès le moment que la personne s'est repentie, bien, c'est gagné. Il n'y a pas d'autre intervention à faire après, mis à part qu'il y a encore de la formation de disciples dans le sens qu'on continue de croître. Mais dès que la personne s'est repentie, l'intervention vient de s'arrêter là. Alors, j'ai perdu mon fil. On va continuer. Si j'ai une poutre dans mon œil, Jésus me dit, enlève cette poutre-là, puis en enlevant ta poutre dans ton œil, tu vas découvrir quelque chose. Je vais découvrir quoi? Je vais découvrir comment l'enlever. Comment est-ce qu'on enlève ça, un 2x4 dans l'œil? Hein? Bouge pas, on va te donner un bon coup sec. Hein? On va t'arranger ça rapidement, sans trop de douceur. C'est pas ça que les Écritures nous disent. Hein? Si j'ai quelque chose à enlever dans mon œil qui est important et qui fait mal, je vais découvrir peut-être, oui, comment l'enlever. Puis, je vais découvrir la douceur. Regardez verset 1 du Galates 6. Vous qui êtes spirituel, redressez-le, comment? Avec un esprit de douceur. Il y a des chirurgies qui se passent dans le monde où on doit enlever, par exemple, une tumeur ou différentes choses. Et puis, c'est fait de façon approprié. C'est pas fait de façon grossière. On prend le temps d'intervenir délicatement puis efficacement. Comment est-ce que Dieu qualifie sa propre parole? On vient de parler d'être rempli du fruit de l'esprit, d'être conduit par l'esprit. La propre parole de Dieu. Elle représente quoi, même dans Éphésiens 5? Tournez avec moi dans Hébreu. La parole de Dieu, elle est capable de venir trancher des choses dans nos vies très délicates. Qu'on a peut-être de la misère des fois à faire la part des choses nous-mêmes dans notre propre vie. Hébreux 4, 12, un autre texte que vous connaissez bien, quelqu'un qui veut le citer ou le lire? OK, Richard? La parole de Dieu fait quoi comme effet dans nos vies? Elle fait la part des choses. Elle fait la part des choses entre des choses qui sont très, très subtiles entre deux. Il dit entre partager âme et esprit et jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu nous utilise avec sa parole. et veut nous utiliser avec un esprit de douceur. Comment je vais intervenir auprès de mon prochain? Comment j'aimerais qu'on intervienne auprès de moi si je suis pris en faute? Dieu nous demande que d'avoir cette qualité-là, premièrement, d'être, comme on dit tantôt, Paul il emploie le terme spirituel, d'être conduit par l'esprit, mais d'avoir aussi un esprit de douceur quand on va redresser, quand on va ramener la personne. Quelle mise en garde est-ce que Dieu nous dit? On revient dans Galates 6.1. Quelle mise en garde est-ce que Dieu nous donne? Qui va être en quelque sorte aussi une autre qualité que Dieu nous demande d'avoir. Oui, vas-y, Sonia. OK. C'est ça? Alors, de prendre garde à nous-mêmes. Regardez, on va relire le verset 1. Si quelqu'un est pris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi cette mise en garde-là pour nous-mêmes? Oui, Danny? OK. Alors, d'avoir une propre discipline, ce que tu sous-entends par le commentaire de Paul, dans sa propre vie, pour pas lui-même tomber par après qu'il a lui-même enseigné. Oui, Sonia? Oui. Oui. Alors, ça nous garde humble parce qu'on prend garde de tomber. Si on prend pas garde de tomber, ben on est en danger. Il peut y avoir, le texte dit, surpris en faute, pris en quelque faute. Et ça peut impliquer beaucoup de choses là-dedans. Et si j'interviens auprès de la vie de mon prochain, de mon frère, de ma sœur, pour un péché dans lequel il est tombé, ben les Écritures me disent, fais attention de pas toi-même être tenté. J'imagine que ça peut soit engendrer des péchés connexes ou un autre péché aussi, ou le même péché. Et il semble y avoir une fragilité à s'impliquer. Et c'est pour ça qu'on doit se garder humble, se garder nous-mêmes sur nos gardes. Juste avec le premier verset, on voit que Dieu nous demande, premièrement, d'être conduit par l'esprit, être spirituel, avoir un esprit de douceur, de s'examiner soi-même, si on prend ce commentaire-là, de prendre garde à soi-même, de s'examiner nous-mêmes, notre propre cœur. Et regardez le verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » On parlait tantôt des deux plus grands commandements, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. La loi de Christ, c'est encore l'amour ici. Mais quelle qualité je peux dire que Dieu s'attend de nous qui intervenons auprès de notre frère ou de notre sœur, au verset 2. Quelle qualité que Dieu s'attend que l'on ait? Ça veut dire quoi, le verset 2? Oui, là, tu as bien levé la main, Barthélémy? OK, tu peux y aller. C'est l'amour, d'avoir un amour. Ouais. Ouais, OK. Alors, d'avoir cet amour-là envers notre prochain, envers Dieu, pour intervenir aussi. Certainement que c'est la qualité que Dieu demeure aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire que de porter les fardeaux les uns des autres? Avoir compassion. Oui, absolument. Aider la personne. Si j'interviens auprès d'une personne, et je fais seulement mettre le doigt d'un bobo. Hein? Est-ce que ça l'aide? Ça peut aider parce qu'on peut cibler exactement là où il y a le problème. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire qu'il s'attend de nous? Comment dit ça? De nous corriger nous-mêmes? Qu'est-ce que tu as dit, Richard? Ouais, OK, d'aider dans la persévérance. Oui, Danny? Ouais. Ouais. Et t'as raison. Regardez le verset 5. Chacun portera sa propre charge. Mais là, est-ce qu'il faut porter les fardeaux les uns les autres ou on porte chacun notre propre charge? Il y a deux mots effectivement différents. L'idée qui est le mot baret ici pour les fardeaux qu'on a besoin d'aide. Et Dieu nous appelle à venir en secours auprès de nos frères, de nos sœurs qui ont des besoins. Le mot au verset 5, là, peu importe, là, c'est plus ou moins pertinent, le fortionne, qui est justement une charge qui est chacun d'entre nous qu'on a effectivement à persévérer puis à maintenir. Alors, Dieu nous demande d'avoir une volonté de porter les fardeaux les uns des autres, parce que justement, on les aime, parce qu'on a la compassion. Et ça implique une dépense de temps, d'énergie pour aider cette personne-là. C'est pas simplement de dire, de lancer c'est quoi les péchés, puis de plus intervenir. Mais comment est-ce qu'on peut s'investir dans la vie de la personne pour l'aider à se relever puis à revenir? Notre aide devrait aller beaucoup plus loin que de simplement mettre les doigts d'un bobo. Dieu s'attend aussi de nous de l'humilité. On en a parlé un peu tantôt. Regardez le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est quoi ce verset-là a en rapport avec le contexte qu'on est en train de lire? On est en train de lire, si quelqu'un est pris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même, portez les fardeaux les uns les autres. Si quelqu'un y pense être quelque chose, mais il s'abuse lui-même, ça veut dire quoi? Ouais. OK. Vas-y, complète, Guy. Oui. Alors, il y avait deux attitudes différentes. Il y en a une qui a été approuvée, je peux dire, par Dieu aussi, certainement. L'autre, non. Gardez votre doigt dans Galates, tournez avec moi dans 2 Timothée. Une attitude d'arrogance passe difficilement dans un processus de discipline. De montrer qu'on est au-dessus, qu'on n'est pas concerné par le péché, qu'on n'a pas de sensibilité ou qu'on n'a pas d'intérêt envers la personne, ça l'emmène peu au but recherché qui est d'amener la personne à se repentir. Mais ça fait plutôt comme un effet d'écraser la personne. En 2 Timothée 2, regardez versets 24 à 26. Quelqu'un qui veut lire? 2 Timothée 2, 24 à 26. Stéphanie. OK. Alors, regardez le verset 24. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner et doué de patience, prêt à s'investir, à persévérer, tu disais tantôt, Richard. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera quoi? La repentance. C'est ça qu'il recherchait. Il va donner la repentance. Et pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus finalement à leur bon sens, ben, ils vont se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, on parle d'un serviteur du Seigneur ici. J'imagine que Paul s'adresse à Timothée, qui était certainement en charge de l'Église, mais je crois que c'est un caractère ou une vertu que chaque enfant de Dieu devrait rechercher aussi, à avoir cette attitude-là d'humilité puis d'intervenir avec douceur. Oui, vas-y, Michel. C'est ça. Oui, je pense que c'est comme ça que tu l'avais lu aussi, Stéphanie. Ça veut dire quoi, de la condescendance? De vivre avec? J'ai manqué un autre commentaire. OK. Alors, il y a, oui, de la prudence. Mais la condescendance, c'est qu'on ne se place pas dans un niveau de supérieur et puis je vais t'aider puis de façon très autoritaire et peu de douceur, mais on se place à proximité dans le but de justement porter le même fardeau. Si je veux porter le fardeau de mon frère, de ma sœur qui vit une difficulté, mais il faut que je me place près de lui. Jésus a eu la même attitude envers nous, la condescendance. Lui qui était l'égal du Père, glorieux comme le Père et qui l'est toujours, ben il s'est quand même humilié pour venir nous rejoindre. Demeurant toujours Dieu, demeurant toujours avec sa nature de ce qu'il avait, ses attributs, il est quand même venu avec condescendance et venir nous rejoindre à notre niveau, là où nous étions. Alors c'est la même attitude que Dieu veut que l'on ait quand on intervient. Avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, le verset 24 de 2 Timothée disait être propre à l'enseignement, doué de patience. En quoi la connaissance des Écritures est nécessaire pour intervenir? Si je veux restaurer un frère ou une sœur, en quoi la connaissance des Écritures est pertinente? Oui, Céline. OK, j'aime beaucoup ce commentaire-là. Quand on veut restaurer une personne, quand on veut amener une personne à la repentance, c'est quoi le motif pour lequel je vais aller vers cette personne-là? C'est pas parce qu'elle n'a pas la même conviction de moi ou qu'elle n'a pas la même opinion que moi. C'est parce que ce qui me donne ma ligne directrice, c'est les Écritures. Le texte qu'on voyait ce matin, c'est si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité. Alors, et là, il devrait être intervenu. Pas si elle ne pense pas la même chose que moi, ben là, à ce moment-là, ça ne marche pas. Le point n'est pas d'avoir les mêmes opinions, mais d'avoir la pratique de la même vérité que Dieu nous a révélée aussi. Nous devons être capables d'enseigner et d'appliquer la parole de Dieu à la situation. Puis il est important qu'elle réponde, que la personne réponde à la parole de Dieu et pas à mon point de vue ou à mon opinion. C'est ça la repentance. Alors, je vais résumer les quelques qualités, si je peux dire, avant qu'on passe à une autre étape. Dieu nous demande d'être spirituel pour intervenir, d'être conduit par l'esprit, avoir un esprit de douceur, avoir une volonté de porter les fardeaux de mon prochain, de l'humilité, une connaissance des Écritures pour conduire la personne vers la vérité, avoir de la patience, de la persévérance, et montrer aussi un amour sincère. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 2. Verset 4. À partir du verset 4, je vais lire jusqu'au verset 8. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Avoir un amour sincère. Autant au moment qu'on intervient, autant des reproches, si je peux dire, où on expose la personne devant la vérité, qu'au moment de la repentance, où on doit accueillir cette personne-là avec amour, puis l'entourer, puis l'encourager. Pourquoi? Pourquoi cet amour-là est nécessaire? Pour pas qu'il soit accablé. Pour pas que ça soit à un point où on... Au moment que la personne se repent, quand une personne se repent, puis qu'elle découvre son péché, puis qu'elle a une repentance, si je peux dire, qui est conforme à ce que Dieu s'attend, qu'est-ce que ça crée en elle? La tristesse. La tristesse, selon Dieu, qu'on ne se repent jamais. On se repent et ça crée une tristesse. Et cette tristesse-là, elle est bonne dans un sens, mais on a ce rôle-là, puis après ça, d'accueillir et puis de manifester l'amour. On est le corps de Christ. On est dirigé par la tête qui est Jésus. Dieu nous demande d'agir avec douceur, avec amour, avec humilité, avec condescendance. Quand la personne se repent, bien, on l'entoure aussi d'amour, puis elle réintègre son corps aussi, pour redevenir utile, certainement, dans le corps, et qu'elle puisse glorifier Dieu aussi. Oui, vas-y, Michel. Ouais. Elle est difficile à aimer celle-là. Ouais. 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 On ne devrait pas faire distinction de personne dans l'amour qu'on peut avoir pour les gens. Ouais, c'est ça. C'est ça, absolument. Et on a cette lutte-là à faire dans notre propre perspective. On va lire quelques textes en rafale disons les textes clés du Nouveau Testament. Une personne qui va me lire Matthieu 18, 15 à 17. On va terminer avec ces lectures-là. Matthieu 18, 15 à 17, un volontaire, Jacinthe. Un autre volontaire qui va me lire 1 Corinthiens 5. Là, je vais couper du texte, là, bougez pas. Un petit peu, juste pour conseil. Quelqu'un qui va me lire 1 Corinthiens 5. Les versets 9 à 13. Michel, une autre personne qui va me lire 2 Thessaloniciens 3, 11 à 15. Céline. Un dernier texte, tu veux-tu le prendre, André, s'il te plaît? 1 Jean 1, 5. OK, allons-y avec Matthieu 18, 15 à 17. Il y a une procédure pour intervenir. Je ne sais pas si... Le ton, si le ton est plutôt négatif à l'égard de la discipline, je suis en train d'échapper les Écritures nous montrent que ça devrait être positivement, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que il devrait y avoir une attitude d'amour, une attitude d'appréciation de la vérité de mon prochain. Et puis, mais c'est certain que le thème de la discipline est un thème lourd. Mais il y a des qualités qu'on vient de voir, que Dieu nous demande d'avoir, et il y a une procédure qui respecte les gens aussi. Si une personne est prise en quelque faute, je ne m'en vais pas tout de suite nécessairement raconter à qui veut l'entendre ce que la personne a fait comme péché. Ou bien je ne vais pas rapidement, si je suis prédicateur, aller rapidement confronter ce péché-là en chair pour dire « il y a quelqu'un dans notre assemblée qui, comme on pourrait penser, qu'on pourrait réagir négativement à l'égard d'un péché qu'une personne a fait. Dieu nous demande d'aller voir directement. Ce ne serait pas non plus d'apporter directement cette personne-là en réunion d'affaires, sans étape, avant, puis de dire, maintenant, on va placer cette personne-là, puis on va lui faire un procès public. On agirait mal à ce moment-là aussi, de réagir de telle façon, parce que Jésus nous a donné une procédure à faire. Il nous a montré comment intervenir dans l'amour et dans le respect pour les gens qui nous entourent, même ceux qui ont péché. Matthieu 18, 15 à 17, c'était qui? OK, vas-y, Jacinthe. OK, on connaissait. J'aimerais que tu lises aussi les deux versets suivants, s'il te plaît. OK, les deux versets suivants font partie du même contexte aussi. On connaît le texte que si mon frère a péché, mais je vais y aller entre moi et lui seul. Il n'y a pas d'exposition publique encore. Et si la personne se repent, qu'est-ce qu'on fait en deuxième étape? On retourne au culte ensemble, puis on chante ensemble, puis on continue de vivre la communion. Parce que la personne s'est repentie de son péché. Si la personne ne se repent pas, mais il y a une deuxième étape. On y va avec des témoins. Des témoins du péché. On pourrait même ajouter aussi des témoins de la vérité. Si je suis dans une période où j'ai commencé à compromettre la vérité, puis j'ai la misère à faire la part des choses, mais j'ai peut-être besoin d'avoir deux ou trois personnes qui peuvent effectivement témoigner de dire ce comportement-là, David, dans ta vie, n'est pas conforme aux Écritures. Et je devrais être confronté. Il devrait y avoir une troisième étape, s'il n'y a pas repentance, à l'Assemblée pour finalement discipliner. Et le texte suivant dit, les versets suivants dit qu'il soit finalement considéré, une fois qu'il est sorti de la communion, comme un païen ou un publicain. On va revenir sur cette idée-là s'il nous reste du temps. Là. Il y aura peut-être d'autres choses à dire encore longtemps là-dessus, là, mais les éléments clés sont là. 1 Corinthiens 5, s'il vous plaît. C'était 9 à 13, s'il te plaît. OK. Qui était la phrase de l'Ancien Testament. Là. Ôtez le méchant du milieu de vous. Maintenant, est-ce que Dieu nous demande d'avoir aucune relation avec les débauchés de ce monde? On vivrait de l'oîtré, hein? On vit dans un monde, malheureusement, où il y a de la débauche partout. Mais qu'est-ce qui détermine que je vais intervenir auprès de quelqu'un? C'est qu'il se... Tu as bien insisté aux bons endroits. Hein? Quelqu'un qui se nomme en frère. Quelqu'un qui dit, moi, je suis un frère. On baptise sur la profession de la foi. Hein? Il n'y a pas personne qui est capable de voir avec ses yeux si cette personne-là a un cœur sauvé. On baptise sur la profession de la foi, comme on discipline sur la profession de la foi aussi. Une personne qui se dit, moi, je suis un frère, mais qui pratique le péché, bien, il y a un problème. Et cette personne-là devrait être confrontée par la vérité pour abandonner son péché. Et là, Paul est dans un point, dans un processus plus loin. Là, il y a tout le contexte d'un Corinthiens 5 d'un homme qui couchait avec la femme de son père. Pour Paul, cette personne-là qui se nomme en frère, puis qui pratique comme ça le péché, bien l'Église, verset 13, devrait juger ceux du dedans, les frères et les sœurs, puis intervenir, puis de finalement en venir peut-être même à une excommunion avec le corps de Christ, pour préserver le témoignage, oui, de l'Église. Pour 1 Corinthiens 15, Paul va même dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il vient de dire dans 1 Corinthiens 5, on ne l'a pas lu encore, mais il dit dans 1 Corinthiens 5, je suis en train de l'oublier, qu'est-ce qu'il dit? Verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. » Même l'Église semble dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire entre eux. Est-ce que la liberté que l'on a en Jésus-Christ nous permet de faire plein des choses? Et puis, ils se sont enflés d'orgueil plutôt que d'être attristé du péché. Vous devriez intervenir plutôt comme ça. Alors, on va intervenir pour pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, pour que la personne, le méchant, soit ôté du milieu de nous, que la personne soit disciplinée. et puis qui finalement aussi elle se repent. On pourrait commenter encore beaucoup de choses là-dessus, de ne pas même manger qu'une telle personne. Peut-être qu'on reviendra là-dessus une autre fois. Un autre texte clé, 2 Thessaloniciens 3, 1 à 15. C'était Céline, vas-y. OK. Et là, tu es arrêté à quel verset? Au verset 13. OK, lis jusqu'à 15. OK. 1 Corinthiens 5 nous donnait différents péchés. Galates 6 nous disait quelqu'un qui est pris en quelque faute. Jésus, dans Matthieu, nous disait si quelqu'un a péché. Dans 2 Thessaloniciens, il nous dit si quelqu'un est oisif, qui fait rien puis qui profite du monde, bien que cette personne-là soit avertie puis qu'elle soit confrontée aussi. Et puis si quelqu'un obéit pas, il complète au verset 14, mais ayez point de relation avec lui, qui était la même exhortation aux Corinthiens, afin qu'il éprouve de la honte. La condescendance, elle est toujours là. Elle est toujours disponible. La compassion pour aider la personne. Mais quand elle est confrontée avec le péché, puis que la personne en vient, qu'il y a une deuxième, puis une troisième étape, puis qu'elle est sortie de la communion du corps, bien, cette personne-là va éprouver de la honte face à son péché. Puis notre prière, c'est qu'elle en vienne à la repentance suite à la honte. Regardez-la pas comme un ennemi. Encore cette idée-là de regarder... comme un frère, mais pas comme un ennemi. Cette idée encore d'être à proximité, d'être prêt. Plusieurs textes nous montrent dans les Écritures d'une façon claire qu'on a à intervenir, qu'on ne devrait pas laisser le péché autour de nous aller, puis pas intervenir, puis rien faire. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu, parce que j'aime mon prochain. Puis quand je vais intervenir d'une façon que Dieu m'a demandé d'intervenir avec douceur, avec humilité, dans le but d'amener la personne à la repentance, en m'investissant même dans cette personne-là pour la conduire, puis l'aider, puis à se repentir de son péché. Et les Écritures me montrent d'une façon claire qu'une personne qui a choisi de pratiquer le péché, qu'elle est sortie de la communion, elle n'est pas sortie de la communication, on peut demeurer en communication avec, comme Jésus était en relation limitée avec les païens, les publicains, vous pouvez certainement présenter l'Évangile, montrer encore un témoignage, confronter ces gens-là face à leur propre vie, mais être encore accessible, mais qu'il y a une relation qui est brisée dans ma communion avec le corps de Christ qu'on représente et cette personne-là qui a choisi le péché. Et c'est à notre grande souffrance quand on en vient là. Autant pour cette personne-là que pour nous. Et j'aimerais qu'on complète avec 1 Jean 1, 5, s'il te plaît, André. Continue jusqu'au verset 7. OK? Il y a un élément de communion ici, d'être dans la lumière. On marche, quand on devient un enfant de Dieu, dans un même chemin, dans la lumière que Dieu nous donne, dans la vérité. Et Dieu est lumière, puis il n'y a en lui aucune possibilité de ténèbres. Il n'y a pas de compromis dans la personne de Dieu, dans la vérité, où je peux dire « Dieu accepte ça ». Si c'est clairement montré que ce n'est pas selon la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, puis qu'on marche dans les ténèbres, bien c'est faux, parce qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Nous sommes dans les ténèbres et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais le verset 7 nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes quoi? Nous sommes mutuellement en communion. Oui, avec Dieu, mais mutuellement les uns avec les autres, dans la communion. Pourquoi? Parce qu'on est au même endroit. On marche dans le même chemin. On est dans la lumière. Et il y a une communion, oui, avec Dieu, mais avec mon prochain aussi. Et la personne qui décide de sortir de la lumière pour marcher dans les ténèbres, il y a une communion qui est difficile à entretenir, puisque la personne a choisi pendant un temps, on espère, le péché, puis les ténèbres. Et il y a une communion qui n'est plus possible. Et certainement qu'on peut toujours se parler, on peut prendre un café, on peut avoir une communication avec cette personne-là, mais il y a une communion fraternelle qui n'est plus possible tant et aussi longtemps que cette personne-là ne se purifie pas de tout péché pour revenir dans la lumière. Je termine là. Question, commentaire. Je sais pas si on a fait tout le tour de ce qu'il y avait à dire sur le sujet, là. Je ne veux pas vous assommer non plus. Question, commentaire. Est-ce qu'il y en a? OK. Bon, ben super. Ça veut dire soit c'est clair ou soit que tout le monde a pris un coup de somnifère. J'espère que c'est la première option. OK, je vais prier en terminant. Seigneur, on vient devant toi pour te louer parce que c'est toi la lumière, c'est toi la vérité. Seigneur, c'est bon d'être en communion avec toi. Et tu nous donnes cette bénédiction que d'être en communion, d'être en relation avec toi, mais aussi avec nos frères et nos sœurs. Et on veut te louer pour ce que tu as créé. On veut te louer pour l'Église, pour les frères et les sœurs que tu places autour de nous. Seigneur, chacun d'entre nous, on est bien faible face au péché. On a cette force en toi parce qu'on se confie en toi, parce qu'on marche en toi. Et Seigneur, garde-nous, chacun d'entre nous, de penser qu'on est au-dessus, de déraper. Garde-nous de penser que le péché ne nous atteindra pas, mais qu'on veille sur nos propres vies, qu'on veille sur nos propres cœurs. Seigneur, on veut pratiquer certainement ces qualités que tu t'attends de nous dans nos vies qu'on a énumérées tantôt de ta parole. Et en toutes circonstances, mais avoir particulièrement, Seigneur, ces vertus, ces qualités en temps difficile quand que j'ai à intervenir auprès de mon frère ou ma sœur qui a péché. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous que tu nous aides à faire cette tâche si difficile qui nous tente souvent tellement pas non plus, Seigneur. On a l'impression qu'on va s'ingérer dans la vie des gens puis que c'est pas de nos affaires. Mais tu nous demandes de le faire, Seigneur. C'est toi qu'on veut obéir et qu'on veut servir. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.